Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Irung Mouchinge. Dans Grand Témoin aujourd'hui, Michel Kifindangoy reçoit Freddy Rosemont, directeur général de l'Office belge des étrangers OEB en sigle. Chers auditeurs et internautes, merci de nous recevoir chez vous.
Monsieur Freddy Rosemont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en séjour en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous parler tout d'abord de l'objet de votre visite ici en RDC?
Naturellement, l'Office des étrangers, c'est le service de migration belge. Et on a constaté qu'il y a beaucoup trop de demandes d'asile faites par les Congolaises, des demandes de protection, que ça a... Le fin est une décision négative. Ça veut dire que les gens ont dépensé beaucoup d'énergie, du temps, mais surtout aussi de l'argent, de venir et d'introduire une procédure qui n'est pas vraiment pour eux, qui ne va pas ou qui ne va jamais aboutir. Donc, je veux informer le public congolais correctement du fait qu'il y a des procédures qui existent, des procédures légaux, que les gens peuvent les utiliser, mais qu'introduire une demande d'asile, et c'est sans doute quelqu'un qui leur dit, un copain, un agent de voyage, quelqu'un qui connaisse, qui dit, oui, il faut faire l'asile. Non, c'est pas le cas.
Plus de 20 millions de Congolais vous suivent en ce moment et je parie que la majorité ne vous connaissent presque pas. Est-ce que vous pouvez tout d'abord parler de vous?
Oui, je m'appelle Freddy Rosemont. Entre-temps, je suis déjà 21 ans directeur général de l'Office des étrangers. J'ai passé toute ma carrière professionnelle à cet institut. Je suis commencé là en 86. Donc, il y a très, très longtemps, j'ai passé différents services, en outre le service d'asile, mais en 2003, le gouvernement belge m'a octroyé le titre de directeur général, et je le fais depuis lors, et je le fais encore avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir, parce que la migration, c'est quelque chose qui est avec des êtres humains, qui est international, qui est l'actualité, et ces trois ensemble, comme fonctionnaire, tu trouves rarement.
Justement, fidèles auditeurs des Radio Capi, fidèles internautes, vous avez devant vous Monsieur Freddy Rosemont. Au regard de son expérience, il maîtrise très bien la problématique de la migration en Europe et plus particulièrement en Belgique, pour avoir dirigé l'Office belge des étrangers pendant une vingtaine d'années. Et donc, toutes les préoccupations, toutes les questions lui seront adressées au cours de cette émission. Tout d'abord, Monsieur Freddy, comment évaluez-vous la coopération bilatérale entre l'OEB et la DGM en particulier et tout en général entre la Belgique et la RDC en matière de migration?
La collaboration est excellente. Avec le DGM, on a un service frère avec lequel qu'on échange les procédures, qu'on invite les fonctionnaires à suivre des formations, qu'on essaye ensemble de construire aussi ici en Congo un nombre de bâtiments, postes frontalières, bâtiments provinciaux, pour faire... améliorer notre travail en Belgique, mais aussi en Congo. Et c'est quelque chose qui, entre-temps, date d'il y a plus que 15 ans. On a signé entre quelques accords, un protocole d'accord en 2006, en 2013. Donc, il y a vraiment une collaboration tout étroite.
Et justement, en 2006, au moment où la Belgique signait le mémorandum avec la RDC, l'immigration clandestine des jeunes congolais était devenue une monnaie courante. La majorité des jeunes pensaient que la vie se trouvait en Belgique et ils utilisaient tous les moyens pour immigrer. Quel est le problème que vous aviez constaté en ce moment-là?
Le problème est que les gens sont mal informés, que ceux qui ont déjà fait le voyage, tellement personne ne veut avouer que c'est un échec. c'est clair. Ils présentent leur situation individuelle beaucoup plus positive que en réalité. Donc ils envoient des photos avec derrière eux une grande voiture, une belle maison, mais ça parle leur. Parce que la situation des gens qui viennent en Belgique sans procédure légale, sans document de séjour, est assez difficile. Pas de travail légal, pas de soins de santé, pas de logement offert par l'État. Donc, c'est vraiment quelque chose que les gens qui veulent avoir une meilleure vie n'expectent pas. Ils sont mal informés. Donc, je pense que c'est notre job, notre tâche d'informer le public correctement. Et avant, ça marchait relativement bien avec les moyens traditionnels, TV, radio, conférences de presse. Maintenant, on a quelque chose auquel que c'est plus difficile, c'est les médias sociaux. Parce que là, c'est facile de poster une photo et quelques petites déclarations disant « Ah, je suis bien arrivé, l'argent tombe du ciel ». Malheureusement, c'est pas le cas, ni en Belgique, ni en Europe. Donc, on doit informer le public le plus que possible.
Et du coup, pendant cette période, il vous arrivait de recevoir au moins environ combien de migrants clandestins par an, approximativement?
L'année passée, on a eu 30...
Non, je parle de la période de 2006, avant la signature du mémorandum. Ça va en fait nous permettre d'évaluer l'ampleur du problème aujourd'hui.
Les vagues, ce sont des vagues qui ne croisent pas toujours. C'est, par exemple, suite à des programmes d'information, et je dois avouer que c'est pas mon première fois ici à Radio Capi. J'étais en 2013 déjà... parmi vous pour essayer de donner les mêmes informations. Donc c'est avec des vagues qui sont up and down, mais en moyenne on a vu les dernières années une augmentation des demandeurs d'asile congolais. En 2021 on avait 360, en 23 on avait 1220, et aujourd'hui, les six premiers mois de 24, on a déjà dépassé le 650. Ça veut dire que si on prend pour toute l'année, on va arriver à 1300-1400 demandes. Naturellement, la crise d'asile en Europe et en Belgique font un peu... Et les demandes d'asile des Congolais font un peu ensemble avec la crise de migration en général. Après 2006, on a en 2010 eu la crise avec la libération des visas du Balkan. Donc beaucoup de demandes, une augmentation énorme. Et avec ces groupes, les Congolais sont jointes. En 2015, on a eu la guerre en Syrie. Et de nouveau, là, on avait, pour toute la nationalité confondue, presque 50 000 demandes, mais aussi une augmentation des Congolais. Et naturellement, entre-temps, on a aussi eu le Covid. La frontière était 2 ans presque clôturé, c'était difficile de voyager, mais après Covid, maintenant, je pense que c'est le moment maintenant d'essayer d'informer le public correctement.
Et du coup, comment avez-vous fait face à cette situation avant Covid, toutes ces années-là,
plus de 15 ans? On engage du personnel parce qu'on traite les demandes individuellement. Mm-hmm. C'est pas un automatisme, c'est pas une machine, c'est un être humain, un fonctionnaire belge qui les traite, on les engage, après, quand il y a peu moins de travail, on les met dans d'autres secteurs que l'asile, mais dans l'immigration, il y a toujours plus de travail que de fonctionnaires disponibles. Donc, c'est quelque chose on s'adapte.
Du coup, ça coûte un peu plus cher pour le gouvernement belge?
Ça coûte cher pour le gouvernement belge, surtout aussi l'accueil des demandeurs d'asile, le logement coûte énormément cher.
Bamboka musika tokende koluka bomoima tokuma mitelengano namboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi e
kakei kasi lobi na kosonga
atandele o
mopembo ezali ndeli
wate o
kakei kasi lobi na kosonga
oyanga bako yambanga
mopembo ezali ndeli wate
na kosonga mboka
kakei kasi lobi na kosonga
aye bayama Tokozonga Kinshasa Pasio yo elekie ninyokolo Buka ya mupaya pasibaninga Atandele tokozonga Kinshasa Pepenya bayeba Dakayo Atandele Tokozonga mboka o Boka babo tabiso Atatele
Kakei Kasi lobi na kosonga
Na kosonga
Mopembo Eza indeli wate
o Baninga
Kakei Kasi lobi na kosonga
Zalise loko yangonga
Mopembo Eza indeli wate o
Lobito kosonga mboka
Kasi lobi na kosonga
Lobito kosonga Kozonga
Mopembo
Kezali ndeli wateo
Kakei
Kasi lobi na kozonga Kinshasa mame
Mopembo
Kezali ndeli wateo
Kakei Kasi lobi na kozonga Mopembo Kezali ndeli wateo Kakei Kasi lobi na kozonga
Radio Capi, grand témoin.
Fidèles auditeurs de Radio Capi, bienvenue à Grand Témoin de ce jour. Nous recevons le directeur général de l'Office des étrangers de la Belgique, Monsieur Freddy Rosemont. Quel état des lieux faites-vous de la situation migratoire aujourd'hui?
Donc aujourd'hui, le Congo est le numéro 6 sur notre liste de pays de demandeurs d'asile. Mais les 5 premiers, ce sont des pays d'où le taux de décision positive est beaucoup plus élevé, pour ne pas dire extrêmement élevé. Tu as d'abord la Palestine, avec la guerre en Gaza, c'est clair, parce que tout le monde reçoit protection. Syrie encore, parce qu'il y a beaucoup de Syriens qui ont fui leur maison suite aux guerres civiles. L'Afghanistan, des gens qui ont quitté l'Afghanistan, des dames, des familles, par peur du Taliban, l'Érythrée, dictature, et la Turquie, et ça c'est un mélange entre les gulenistes et les Kurdes. Et donc le Congo est le premier pays d'où le taux de décision positive est très faible. C'est aussi le gouvernement belge a décidé l'année passée d'introduire pour eux et pour quelques autres pays comme le Moldavie et la Géorgie, d'introduire un fast track procédure, une procédure rapide. Donc une décision et un recours toujours traité vite.
Mais en même temps, en regard du passé commun entre la RDC et la Belgique, le Congolais s'estime avoir ce droit privilégié de s'installer en Belgique.
Pas avec une demande d'asile, parce que le critère de demande d'asile, la Convention de Genève, fait pas une différence entre un Congolais ou un Camerounais, ou entre un Congolais ou quelqu'un de Venezuela. C'est toujours le crainte individuelle d'être poursuivi par l'État pour des raisons qui sont prévues dans la Convention de Genève. C'est apparence à un groupe social, c'est religieux ou c'est politique. Donc le lien historique ne joue pas là.
Mais toutefois, le droit de s'installer où qu'on veut est universel. C'est un droit légitime. Chaque Congolais peut se dire, bon, moi, je ne veux plus vivre en RDC, je veux vivre en Belgique ou je veux vivre au Canada ou je ne sais où. Mais que faire pour immigrer régulièrement?
Le droit à migrer est un droit qui, en effet, existe et est respecté au moment qu'on suit les règles et la loi du pays d'accueil. Parce que autrement, tout le monde s'installe où il veut et c'est le chaos, c'est vraiment pas du tout la démocratie comme on le connaît en Europe. Donc, la législation prévoit trois grands groupes de migration légale. C'est d'abord le travail, c'est les études et c'est le regroupement familial. Et ça, vraiment, si vous remplissez là les conditions, on va pas vous dire non. Au contraire, on va vous accueillir, on va être très enthousiaste que vous venez. Mais ceux qui viennent, qui n'ont pas un des trois critères, qui ne remplissent pas un des trois critères, eux, on va leur demander de quitter la Belgique et de quitter le territoire Schengen. C'est l'un ou l'autre.
Nous avons reçu de plus en plus de plaintes des voyageurs qui disent avoir des difficultés d'obtenir un rendez-vous à l'ambassade quand ils introduisent la demande de visa. Est-ce que cette difficulté d'obtenir le rendez-vous est justement édicté par votre politique de gestion de flux migratoires?
Non, pas du tout, mais c'est réel. En effet, le problème est réel. La cause est que les agences de voyage, au moment qu'on ouvre des possibilités pour avoir le rendez-vous, que les agences de voyage le monopolisent directement et le vendent après aux gens. Et ça, c'est pas du tout le but. Les gens doivent payer 400-500 dollars pour avoir un rendez-vous qu'ils peuvent obtenir gratuitement, parce que le service est rendu seulement et monopolisé par les agences de voyage. Donc, je plaide pour l'instant, et aussi l'informatique des affaires étrangères qui gère cette base de données est en train de voir comment éviter que tout d'un coup, une agence de voyage prend 10 rendez-vous et bloque tout le reste. C'est d'abord pour les gens de laisser l'occasion de prendre le rendez-vous directement, de ne plus payer à une agence de voyage pour fournir le rendez-vous, mais aussi pas pour fournir le dossier de visa. Parce que un grand problème maintenant est que les agences de voyage travaillent en chaîne. Pour eux, c'est tous tourisme, parce que c'est facile, c'est toujours la même chose. Et la réalité est que beaucoup de ressortissants congolais viennent pour des visites familiales. Donc, ils viennent visiter leur sœur, leur frère, leur neveu. Et s'ils sont corrects avec ça, s'ils sont honnêtes avec ça, ils vont l'expliquer. Ils vont pas avoir besoin de pièces falsifiées, des raisons qu'ils inventent. Donc, le chance d'avoir un visa sera beaucoup plus grand.
Et justement, il se répand dans la cité que maintenant, pour obtenir le rendez-vous à l'ambassade, il faut passer par des agences et monnayer de l'argent. Et dans l'opinion, on pensait que c'était l'ambassade de Belgique qui organisait cette tournure pour décourager les voyageurs. Est-ce qu'en est le cas?
Non, pas du tout. Il n'y a aucun lien entre l'ambassade de Belgique et les agences de voyage. Vraiment aucun. Non, on veut éviter justement les agences de voyage parce que avec ça, le contenu d'une demande de visa va être beaucoup plus correct que c'est maintenant. Donc, ça c'est le conseil au public. N'écoute pas aux agences de voyage. Fais votre demande vous-même.
Visiblement, la Belgique a quand même renforcé son dispositif pour contrôler tous ces mouvements de Congolais entre la Belgique et la République démocratique du Congo, ne trouvez-vous pas que ces mesures pénalisent aussi les voyageurs réguliers qui veulent obtenir leur visa, soit pour les vacances, soit pour le séjour médical ou alors pour les études?
La Belgique a pris des mesures pour que justement les gens peuvent avoir leur visa en mettant plus de guichets ouverts et n'utilisant plus de personnel pour gérer le flux de demandes de visa qui a augmenté. Ça c'est clair, après Covid, ça c'est partout dans le monde, il y a une augmentation des demandes de visa parce que les gens maintenant sont de nouveau libres, peuvent de nouveau voyager, on fait quelques économies à un certain moment, donc il faut l'utiliser et voir les gens qu'ils connaissent un peu partout. Hein. On voit une croissance de demandes de visa partout dans le monde. On prend justement des mesures pour laisser les gens facilement introduire et on va avoir beaucoup plus de demandes de visa octroyées qu'avant. Mais quand la demande est une demande justifiée, c'est tout à fait normal.
Ah Didi, ta voix est pure comme le diamant, chaude comme le rubis. Anissé Kouli Sebana, papi ma sampo, yabouté.
Nini towe lingana yo, awa natika lili kombe yaya. Wapi oyo remplace na voyage, malaya si mama na korefise.
Mama Tlo, y'a Jean-Baptiste Lambert.
Voyage,
yo kotika moto na soucié.
Voyage,
désespoir na katia motema.
Voyage,
soki likamo na nyako konsolé.
Voyage,
ame bien, poni na kosala kaboye.
Voyage,
yo kotika moto na soucié.
Voyage,
désespoir na katia motema.
Voyage,
soki likamo na nyako.
Voyage.
Nous n'avons jamais connu ce n'est pas voyage. Marie France échoue à Zangaka Béaé, Kaka Bona voyage. Nous n'avons jamais connu ce n'est pas Bona voyage. Pepo eko mata, masua eko chola mutema mawa, loboko eko pepa oyake, voiture yo complice, eje mandongo.
Basusu bako kendeke, voyage ya makambo. Basusu bako kendeke, voyage ya kelasie. Basusu bako kendeke, voyage ya bafeleo. Kasi yoko tika sasusi moko, na mote maya moto. Ale maindo, noko dae dae.
Voyage.
Poni nyako sala kaboye.
Voyage.
Yoko tika moto na susi.
Voyage.
Désespoir na katia motema.
Voyage.
Soki lika monanya ko konsole.
Voyage.
Ngai mboso, amia alembia.
Fabino Boko evacate. Souci à voyager. Et Koki Kotina Moto Ilo Amisala Mabe. Naï papa Bonimo, la sala qui malheureux. Kaka Pona voyage, Jean-Paul et Ngambe.
Atako Shimo Susue, Bobo Sanangaite. Fabrice Manale Lavana Londe. Tassoni Zebonga, famille royale, Fini qui fanie. Eriwa, Nalela, Wafuku Malala, Nalela, Fabrice Bimboyo, Tonto Chate, Nanalina,
voyage, Terrine Koki Mawa,
voyage.
Bonilio Kosala Kapo
voyage.
Yoko Tika Motona Susi
voyage.
Désespoir na Katia Motema
voyage.
Yoko Tika Monania Koko Sole
voyage.
Makata
grand témoin.
Okapi.
Grand témoin de ce jour, nous recevons le directeur général de l'Office des étrangers de la Belgique, monsieur Freddy Rosemont. Et donc, vous avez affirmé que pour l'année 2023, la Belgique a enregistré plus de 1200 demandes d'asile. D'après vous, qu'est-ce qui explique cette augmentation des demandes d'asile dans un pays qui est le nôtre, la RDC?
C'est, les demandes d'asile, naturellement, ce sont des, il faut tenir compte du fait que c'est un moyen de penser d'avoir un séjour en Belgique au moins de quelques mois, plus ou moins légaux. C'est pas plus que quelques mois. Parce que dès que la demande est faite, l'examen commence, l'examen va vite, parce que, comme je viens de dire, c'est le fast track. C'est la première décision par le commissaire général, recours inclus. On est à un an, deux mois pour des autres nationalités, pour les nationalités congolaises, ce sera encore moins. L'explication, je pense, est de plus en plus de jeunes, mais aussi ça, c'est pas seulement ici en Congo, c'est partout en Afrique, plus de jeunes veulent venir en Europe. Ils pensent que là, la vie est meilleure, la vie est plus facile, ce qui est absolument pas le cas, hein, soyons clairs. C'est froid en hiver en Europe, le travail légal, c'est difficile à obtenir, les études, il faut avoir une inscription à une université ou une autre école. c'est pas du tout facile de s'établir et de devenir légaux en Europe.
Mais en même temps, est-ce que les certaines demandes d'asile ne vous apparaissent-ils pas fondées, parce que avec les changements de régime en RDC, vous savez que la plupart des dignitaires qui ont travaillé avec le président Kabila se retrouvent aujourd'hui dans une situation un peu inconfortable et pourraient trouver la Belgique comme un pays sûr pour leur sécurité.
Inconfortable ne veut pas dire être poursuivi par l'État. Ça c'est une grande différence. C'est pas parce que on a perdu son poste qu'on peut prétendre d'être poursuivi dans le cadre des conventions de Genève. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Ce qu'on a maintenant, ce sont des jeunes, pas des anciens cadres, des jeunes entre 20 et 35 ans, égalité homme-femme aussi, ça, la plupart des cadres sont quand même des hommes, et on a beaucoup de jeunes, presque tout le monde vient de Kinshasa, né Kinshasa, logement Kinshasa, donc c'est le groupe n'est pas l'ancien cadre, le cadre de l'ancien régime, certainement pas.
En même temps, la misère. Est-ce que les causes ne pourraient-elles pas être trouvées dans la misère de la population?
Misère ou ne pas avoir beaucoup d'argent n'est pas une raison prévue dans la Convention de Genève. Ça, c'est plutôt, je suis d'accord avec vous qu'on doit lutter contre ça, mais là, c'est pas la procédure d'asile qu'on doit utiliser, c'est le développement, c'est Inabel, c'est les différentes agences internationales qui doivent aider le gouvernement congolais à développement économique du pays. Une pauvreté économique n'est pas une raison pour une demande d'asile.
Et dans le cadre de votre partenariat avec la République démocratique du Congo, est-ce que vous avez mis en place, par exemple, des mécanismes de sensibilisation de la population congolaise face à la migration? Vous l'avez dit au début de cet entretien, qu'il y a beaucoup de mensonges qui se véhiculent. On fait rêver les Congolais qu'une fois arrivés en Europe, c'est comme par une baguette magique, la vie change et tout devient en rose.
Notre expérience a montré que quand on le fait, quand les Belges le font, ça a beaucoup plus d'influence que quand les collègues du DGM le font. Parce que naturellement, ce sont des compatriotes, on les croit beaucoup moins. Si on le fait, on est à l'origine, on est à la base. Ce qu'on dit est la vérité, c'est vrai. C'est tout à fait... on n'a pas peur de dire les choses un peu dures. Parce que il faut éviter que les gens prennent le temps, perdent l'énergie et surtout de l'argent à quelque chose qui ne peut pas aboutir. Et ça, c'est une demande d'asile en Belgique.
Et quel est le sort qui serait aujourd'hui réservé à un jeune quinois qui s'est dit « la Belgique ou rien, je vais utiliser tout le moyen pour arriver en Belgique clandestinement ». Dès qu'il est en Belgique, quel est le sort qu'il attendra?
Oui, d'abord, il va faire un voyage qui va lui coûter beaucoup et qui va être dur, n'importe quel moyen qu'il utilise. En Belgique, il va introduire une demande, on va lui prendre ses empreintes digitales. On va le comparer avec deux banques de données, c'est le banque avec le visa, pour voir s'il n'est pas venu avec un visa et quelle raison qu'il a eu avec un visa. C'est possible, pas normal, que quelqu'un qui est poursuivi par l'État possède un passeport. Parce qu'en général, le passeport est déjà convoqué ou il n'a jamais reçu un. Et on va le comparer avec la base de données des demandeurs d'asile en Europe, pour voir s'il n'a pas introduit une demande dans un autre pays, l'Italie, la Grèce, la Croatie, ou s'il n'a pas passé une frontière illégalement à Schengen. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir. On va l'interroger, on va demander pourquoi il pense qu'il a besoin de protection. Le dossier passe au commissaire général aux réfugiés et apatrides. Eux sont vraiment des spécialistes. Quelqu'un, par exemple, qui prétend, moi j'ai participé à une manifestation et suite à ça j'étais mis en prison et on m'a poursuivi pour pour quelques mois. Les spécialistes du commissariat général vont vérifier d'abord si les manifestations ont eu lieu, combien de gens ont été arrêtés, s'ils disent j'étais en prison. Quelle prison, la composition du prison, ça, le bâtiment à 3 étages ou 5 ou 2 ou 1, où sont les entrées, combien d'entrées il y en a, combien pour savoir s'il a réellement passé du temps dans ces prisons-là. Et à ce moment, ça, c'est très très évident que la plupart n'a pas vu l'intérieur du prison, n'a même pas participé à la manif, parce que la manif est fictive ou la manif a eu lieu, mais avec 200 personnes et pas avec 20 000, directement, la décision va tomber comme une décision négative.
Et une fois la décision négative, qu'est-ce qu'il devient?
Il y a un recours possible. Devant un tribunal avec des juges administratifs, il peut invoquer la même chose. Ben, dans ces conditions-là, le tribunal va confirmer la décision du commissaire général en disant « Oui, monsieur, c'est pas vrai, vous avez menti. » Ou « Vous avez même pas menti, vous tombez pas sur le critère de Genève, sur le critère de besoin de protection. » L'office va reprendre le dossier, va lui donner un ordre de quitter le territoire, belge et aussi Schengen. On va lui inviter de venir discuter avec un de nos fonctionnaires sur son avenir. Donc, les gens qui disent « je suis un papier, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire », malheureusement, beaucoup de ex-demandeurs d'asile ne le font pas. Et la dernière étape, c'est le retour forcé. Quand un policier le contrôle, pas de document, un dossier est renvoyé chez nous, on le garde, on le met en détention. Il va passer un certain temps là, et entre-temps, on prépare le vol. La première fois, ce sera sans policier, un avion commercial, SN, mais Turkish ou le RAM, mais sans policier. Il ne se comporte pas, il est violent, il commence à crier, à se bagarrer. Ce sont des policiers belges qui accompagnent. Et si le nombre est assez suffisant, on va souvent avec des autres pays de l'Union européenne, dans le cadre de Frontex, on va faire un vol spécial. Vol spécial, ça veut dire sans autres policiers, seulement avec des gens qui retournent.
Et du coup... Pour ceux qui se décident de continuer à vivre clandestinement, quel est leur sort? Quelles sont les dispositions qui sont prises sur place en Belgique pour la survie de cette catégorie de personnes, les sans-papiers?
La seule disposition qui est la leur, c'est l'aide médicale urgente. Donc, s'ils ont une maladie qui est menaçante pour leur vie, c'est un médecin payé par l'État belge qui va leur traiter, mais ils n'ont rien d'autre, ils n'ont pas de logement, pas de travail légal, pas de location, absolument pas. Et toujours le risque qu'un policier va tôt ou tard leur demander, ou un inspecteur du travail, un inspecteur social va leur demander où est votre permis de séjour, où est votre carte de séjour, et s'ils ne l'ont pas, ils reviennent chez nous dans le cadre du retour forcé.
Du coup, les conditions de vie sont très difficiles pour les immigrants clandestins en Belgique.
Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est sous-estimé. C'est justement que les gens veulent ne pas avouer que c'est un échec. Donc, ils présentent leur situation beaucoup plus rose que c'est. Mais finalement, c'est très difficile, en effet.
Alors, pour finir, je voudrais que vous vous adressiez à cette population. D'abord, pour ceux qui veulent immigrer, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être dans les normes? Et ceux qui veulent échapper, ceux qui veulent aller en dehors des normes légales, qu'est-ce qui les attend comme danger et comment vous les découragez?
Pour ceux qui veulent migrer, utilisent les procédures légales. Ils existent. Ils sont certainement pas faciles, mais existent les procédures légales et ça, il y en a 3. C'est le regroupement familial. Mais pour ça, il faut une famille. Il y a des études. Mais pour ça, il faut une inscription dans une université ou une école supérieure. Et où il faut une migration pour avec le travail. Avec ça, il faut non seulement un contrat de travail, l'employeur, mais le permis aussi de travailler, qui n'est pas toujours, c'est une compétence régionale, mais qui est difficile à obtenir. Ça existe, mais c'est difficile. Donc, ne rêve pas trop de ça. Pour ceux qui veulent utiliser d'autres moyens, ne le fais pas, parce que le voyage va être dangereux, va coûter beaucoup d'argent et peut-être aussi votre vie. Le séjour en Europe comme clandestin, ça va toujours être avec un peur et sans aide de l'État, parce qu'on parle de la Belgique, mais la situation sociale dans beaucoup d'autres le pays de l'Union est encore beaucoup plus pire. Donc, réfléchis 4 fois avant de commencer un voyage comme ça, parce que ça peut pas abondir à quelque chose de positif.
Freddy Rosemont, je rappelle que vous êtes directeur général à l'Office belge des étrangers. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Communauté congolaise qui est dans la salle. Non, non, c'est pour le plaisir. Nous allons maintenant quitter la ville de Wurtzbourg. Je vais vous amener chez moi, à Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Brandissez le drapeau, s'il vous plaît. Nous allons tous y participer avec la rumba congolaise. Tous ensemble, nous allons porter la main gauche comme ça. Levons tous la main gauche. Left, left, left. Everybody, everybody. Et portez la main droite sur la poitrine. Vous allez voir que le mode d'emploi pour danser la rumba, il est tellement facile. Je vais vous montrer un exemple. On va tous aller. Gauche, droite, tous. Gauche, droite. Gauche, droite. Left, right. Left, slowly, slowly. Alors c'est lui qui se sent capable de prendre une partenaire et qui la prend avec. Thank you.
Leo paka ni mawazo.
Apuna ni acha. Kama we unaenda.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation Michel Kifin Dangoy, réalisation Alain Rung Mouchinge, supervision Jean-Marc Matouaki. Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission et bien d'autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiocapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.
Comela na café Rio. Zale zali nanga, bonge toni na miso, posa ya mai e baby singa mongongo. Nakokanga motema na tala na miso, lokola ekosema kama swa ya libongo ya lipopo. So kinga na kitili popo anzabe nena tondi yo se botondi ye Lika momo nene na kosenga liboso na kota kaferio na benda kopo ya mpio Pona nemo bimba 64 ele kinga na maipena zali se kotio la ye Lipopo mboka kini bale boba koko batika peto zali kola na ye Na popo ngana kozala na leyo, leyo moka o Afrika fiesta hako ningisa na vizavi, ongo ya o Bana moka bako mela na kaferi o Bona le koleka o, bona le boyo tema wa o Lelo na popo ngana kobima na sheri, mwana moka o Kozala na leyo, niyomoka o
Afrika kya sampo ningi sana vizavi Ogo ya o Bana moka bako mela na kaferi yo Bonane kole kao bonane Oyo ne mawa o Kana papa kana pobi mana sheri Mwana moka o Kana papa kana kozala na leyo Yo moka o Afrika kya sako ningi sana vizavi Ogo ya o Bana moka bako mela na kaferi yo Bonane kole kao bonane Koyo ne mawa Lela na poko angana kobi mana sheri Wala moka